إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on se retrouve ce soir pour lire un nouveau chapitre du livre منهج السالكين de l'éminent Cheikh عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. La semaine dernière, nous avons terminé les chapitres liés à la prière. Après cela, le Cheikh رحمه الله تعالى a mentionné كتاب الجنائز, le livre au sujet des janaïs, qui est le pluriel de janaza. Donc dans ce chapitre, le Cheikh rahimahullah ta'ala a abordé le sujet des rites funéraires. Et il a mentionné ce chapitre après les chapitres sur la prière, car comme vous le savez, parmi les rites funéraires, il y a la prière sur le mort. Il a commencé ce chapitre en disant « قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله رواه مسلم » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites dire à vos morts « La ilaha illallah » et ce hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullahu ta'ala. Donc le shir rahimahullah, il commence tout d'abord par nous mentionner quelques règles nécessaires à connaître lorsque l'on se trouve en compagnie d'une personne qui est mourante. Et parmi les choses légiférées, il y a le fait de lui faire dire « La ilaha illallah ». Il a donc mentionné ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Faites dire à vos morts » et ce qui est visé par les morts ici, ce sont les mourants, ceux sur qui apparaissent les signes de l'approche de la mort. « Faites dire à vos morts, c'est-à-dire à vos mourants, la ilaha illallah, la parole du tawhid, la parole de l'unicité. » Et ce car, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un autre hadith, « Celui dont les derniers mots sont la ilaha illallah, il entrera au paradis. » Il y a donc un grand mérite que les derniers mots de la personne soient la parole du tawhid et la reconnaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et que nul autre que lui n'est en droit d'être adoré. Il convient donc de rappeler à la personne qui est mourante de prononcer cette parole. Et il convient de faire preuve de douceur et de sagesse pour lui faire prononcer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas la brusquer, mais on doit tenir compte de son état, de sa situation, de ses éventuelles souffrances. Et les savants ont dit que ce n'est pas une condition de lui ordonner de le dire de manière directe. Mais on peut lui insinuer, lui faire comprendre en lui faisant penser d'une autre manière. Comme par exemple, en se tenant à côté d'elle et en parlant des mérites du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et notamment des mérites de la parole du tawhid. Ou alors, on peut tout simplement répéter cette parole en se tenant à côté de la personne mourante en disant « La ilaha illallah ». Et il se peut qu'en t'entendant la dire, il la dira lui aussi. Ou alors, s'il ne comprend pas, on peut lui rappeler directement mais avec une parole douce. En lui disant par exemple « Il serait bien que tu dises « La ilaha illallah ». N'oublie pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui dont les derniers mots sont « La ilaha illallah » il entrera au paradis ». Et peut-être qu'ainsi Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera la réussite et fera que ses derniers mots soient la parole du tawhid, la ilaha illallah. Et on rapporte à ce sujet un beau récit au sujet de la mort d'un des grands imams de l'islam, qui est Abu Zur'a, rahimahullah ta'ala. Il est rapporté que lorsqu'il était mourant, il y avait auprès de lui de nombreux savants, Abu Hatim, Muhammad ibn Muslim, Al-Mundir ibn Shadan, et d'autres parmi les gens de science. Lorsqu'ils l'ont vu mourant, ils se sont rappelés de ce hadith « Faites dire à vos morts, la ilaha illallah ». Mais ils étaient gênés de rappeler cela à Abu Zur'a, en raison de sa prestance. Alors ils ne savaient pas comment faire pour lui rappeler. Ils ont donc dit « Venez, nous allons nous rappeler le hadith ». Alors le premier a commencé et a dit « Ad-Dahhak nous a rapporté, d'après Abdelhamid ibn Ja'far, d'après Salih ». Puis il s'est arrêté là et ne disait pas la suite de la chaîne de transmission du hadith. Alors Abu Hatim est venu après lui et a dit « Bandar nous a rapporté, Abu Asim nous a rapporté, d'après Abdelhamid ibn Ja'far, d'après Salih. » Puis il s'est arrêté ici et n'a pas continué jusqu'à la fin du hadith. Et les autres étaient autour et gardaient le silence. Alors Abu Zur'a, qui était mourant, les entendant simplement mentionner la chaîne de transmission du hadith, il a reconnu de quel hadith il parlait. Alors il a dit, Bandar nous a rapporté. Il a dit Abu Asim nous a rapporté. Il a dit Abdul Hamid ibn Ja'far nous a rapporté. D'après Salih, d'après Kathir ibn Murra, Al-Hadrami, d'après Mu'adh ibn Jabal, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui dont les derniers mots sont « La ilaha illallah » entrera au paradis. Et après ces mots, Abu Zur'a est mort, rahimahullahu ta'ala. On voit donc ici la sagesse qu'ils ont eue pour lui rappeler de prononcer cette parole. Et on voit également le rang éminent et le grand mérite de cet imam Abu Zur'a, rahimahullahu ta'ala, qui malgré la situation difficile, a reconnu le hadith simplement à travers sa chaîne de transmission. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire miséricorde à l'ensemble des savants de l'islam et de nous accorder à tous une bonne fin. Et le fait de rappeler cette parole, cela concerne bien sûr le musulman, mais il fait aussi partie de la sunna d'appeler le mécréant à prononcer cette parole au moment de sa mort. Et ce, afin qu'il puisse terminer sa vie sur l'islam. Il se peut que tu sois la cause pour qu'il entre en islam avant son dernier souffle. Et c'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela nous est rapporté dans l'histoire du jeune juif, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite avant sa mort et qui est entré en islam avant de mourir et qui a été ainsi sauvé du feu de l'enfer. Et cela nous est aussi rapporté dans l'histoire de la mort d'Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui rendit visite alors qu'il était mourant et qui lui a dit « Oh oncle, dis la ilaha illallah ». C'est une parole qui me servira d'argument pour toi auprès d'Allah. Car si la personne prononce cette parole avec conviction avant de mourir, même si elle a vécu toute sa vie dans le polythéisme et la mécréance, alors cette parole sera pour elle un argument immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et une cause de l'expiation de l'ensemble des péchés qui auront précédé. Il est donc légiféré de rappeler à la personne mourante le mérite de la ilaha illallah est de prononcer cette parole. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a dit « وَقَالْ اِقْرَهُ عَلَى مَوْتَاكُمْ يَاسِينَ » Et il a dit, c'est-à-dire, dans le hadith, « Lisez sur vos morts, c'est-à-dire sur vos mourants, Yasin, surat Yasin. » Donc, comme on a dit, sur vos morts, c'est-à-dire sur ceux qui approchent la mort. Ils ont été appelés les morts car le moment de leur mort s'est rapproché. Donc, ce hadith a supposé qu'il soit authentique. Ce n'est pas une preuve pour justifier le fait de lire Surat Yasin sur la personne qui est morte, c'est-à-dire une fois que la mort est avérée, que ce soit dans sa maison ou alors dans le cimetière, avant ou après son enterrement. Tout ceci fait partie des innovations qui ont été instaurées par les gens aux religions. Mais ce qui est visé par le hadith, à supposer qu'il soit authentique, c'est de lire Surat Yasin sur la personne qui est mourante, avant qu'il meure. Et ce, afin de l'exhorter, de lui rappeler ce qu'elle contient comme enseignement, s'il a encore la raison et qu'il peut profiter de ce qu'il entend comme parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, ce qui est juste est que ce hadith n'est pas authentique, comme l'a mentionné l'imam Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et également l'imam Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il ne fait donc pas partie de la sunnah, selon la vie authentique, de lire cette sourate sur la personne qui est mourante, et ce en raison de la faiblesse de la chaîne de transmission de ce hadith. Et certains parmi les gens de science, comme c'est le cas de l'auteur, rahimahullah ta'ala, ont pensé que la chaîne de transmission de ce hadith était authentique. Ils ont donc recommandé de lire Surat Yasin sur la personne qui est mourante. Et si on lit Surat Yasin ou une autre parmi les surates du Coran sur une personne qui est mourante avec comme intention le fait de l'exhorter, de lui faire profiter du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, si elle comprend le sens de ces versets à son écoute. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de gêne, mais nous ne devons pas dire que cela fait partie de la sunna, car ce hadith n'est pas authentique. Mais la sunna est de lui rappeler de dire « La ilaha illallah ». Ensuite, il dit, rahimahullah, « وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ بِغَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ فَرْضُ كِفَايَةٍ » Et la préparation du mort, qui comprend son lavage, la mise en linceul, la prière sur lui, le fait de le porter, c'est-à-dire de le transporter jusqu'au cimetière, et son enterrement, ceux-ci sont des obligations communautaires. Comme on l'a vu dans des cours précédents, l'obligation, elle se divise en deux catégories. Il y a l'obligation individuelle qui incombe à chacun d'entre nous, à l'exemple des cinq prières, et il y a l'obligation qu'on appelle l'obligation communautaire. C'est celle qui, si une partie suffisante de personnes l'accomplissent, alors les autres en sont dispensés, comme c'est le cas de la préparation du mort, et également de la prière sur lui et de son enterrement. Si des personnes suffisantes s'en chargent, alors les autres en sont dispensés. Toutefois, si personne ne s'en charge, alors ils seront tous dans le péché. C'est cela qui est visé par l'obligation communautaire. Ensuite, il a dit, rahimahullah, « قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: empressez-vous avec le corps du mort. Si c'était un vertueux, alors c'est vers un bien que vous l'avancez. Et s'il n'était pas ainsi, c'est un mal dont vous vous déchargez. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allahu ta'ala. Ce qui est visé par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, empressez-vous avec le corps du mort, c'est le fait de s'empresser à préparer le mort une fois que sa mort est avérée. Et entre dans cela le fait de s'empresser à le laver, à le mettre dans son linceul, à prier sur lui et à l'enterrer. Il est donc légiféré de ne pas retarder sa préparation, mais de se charger de cela le plus rapidement possible. Et également, il est légiféré de hâter le pas lorsqu'on le transporte vers le cimetière. Mais ici, il faut faire attention à ne pas comprendre, comme peuvent le comprendre certaines personnes, qu'il faut courir. On voit parfois, lors de certains enterrements, des personnes qui portent le mort et qui courent, au point que cela devienne difficile pour ceux qui portent et pour ceux qui les suivent. Donc ce qui est visé, c'est de hâter le pas, mais sans rendre cela difficile pour les porteurs et pour ceux qui suivent le convoi funéraire. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné une sagesse dans cela. Il a dit, si c'était un vertueux, alors c'est vers un bien que vous l'avancez. En effet, si la personne était vertueuse, alors sa tombe serait un jardin parmi les jardins du paradis. Et l'enterrer est donc un grand bien pour lui, car il trouvera dans cette tombe les délices et le bonheur, bi'idhnillahi ta'ala. Et s'il n'était pas ainsi, c'est un mal dont vous vous déchargez. Et ceci est dans votre intérêt, de ne pas retarder son enterrement. On voit donc que, dans le cas de la personne vertueuse, on s'empresse dans son intérêt, et dans le cas de la personne qui n'est pas vertueuse, on se presse dans l'intérêt de ceux qui s'occupent de l'enterrement et dans l'intérêt de ceux qui sont présents. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit « وقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه رواه أحمد والترمذي. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'âme du croyant est suspendue à sa dette jusqu'à ce qu'on s'en acquitte pour lui. » Et ce hadith est rapporté par Ahmed et Tirmidhi. Il a été jugé authentique par Al-Albani, rahimahumullah ta'ala. On voit donc à travers ce hadith que l'affaire des dettes, c'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Mais si une personne décède en ayant laissé des dettes, alors il incombe à ses héritiers de régler ses dettes avec l'argent qu'il a laissé en héritage. C'est-à-dire que s'il a laissé de l'argent, ou alors s'il a laissé des biens, comme une maison, une voiture ou autre, qui peuvent être vendus afin de payer ses dettes, alors ceci est une obligation. Et il est interdit d'être négligent à ce sujet. Il ne faut pas penser que sous prétexte qu'il est mort, ses biens ne lui appartiennent plus. Mais avant de partager ce qu'il a laissé en héritage, il est obligatoire de régler ses dettes. Et s'il n'a rien laissé en héritage, s'il ne possédait rien, alors dans ce cas-là, ce n'est pas une obligation à ses héritiers de régler ses dettes. Toutefois, s'ils le font, c'est une grande forme de bienfaisance envers lui pour laquelle ils seront récompensés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, on rapporte qu'on a amené au prophète sallallahu alayhi wa sallam le corps d'une personne afin qu'il prie sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors demandé s'il avait des dettes. Et on lui a répondu qu'il n'avait pas de dettes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur lui. On lui amena ensuite le corps d'une autre personne et il posa la même question. Avait-il des dettes? Et on lui a répondu qu'il avait des dettes. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Priez sur votre compagnon. C'est-à-dire qu'il leur a ordonné de prier sur lui, comme si lui refusait de prier en raison du fait qu'il avait des dettes. Donc ceci nous montre que c'est une affaire sérieuse. Alors Abu Qatada radiyallahu ta'ala anhu a dit: Je me charge de sa dette au messager d'Allah. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur cette personne. Il y a donc dans ce hadith un encouragement à régler les dettes du musulman qui est décédé. Et on voit également, à travers cela, l'importance pour celui qui a des dettes de les noter, afin que ses héritiers en aient connaissance, et qu'ils puissent ainsi les régler pour lui après sa mort s'il n'a pas eu l'opportunité de les régler de son vivant. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit: والواجب في الكفن ثوب يستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. Et l'obligation concernant le linceul est une pièce de tissu qui couvre l'ensemble du corps, à l'exception de la tête du muhrim, celui qui est en état de sacralisation, qui est mort pendant le pèlerinage ou la umra, et le visage de la muhrima, de la femme qui est mort en état de sacralisation lors du pèlerinage ou de la umra. Donc l'obligation concernant le linceul, c'est une pièce de tissu qui recouvre l'ensemble du corps. Et le mieux, c'est de le couvrir avec trois pièces de tissu blanc. Et le shir rahimahullah ta'ala nous dit à l'exception de la tête de celui qui est en état de sacralisation, celui qui est mort pendant le pèlerinage ou la umra. Et ce en raison du hadith rapporté par al-Bukhari et Muslim rahimahumallah ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui a dit: Alors qu'un homme stationné à Arafat, il est tombé de sa monture, puis il est mort. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de le laver, et il a ordonné de ne pas couvrir sa tête. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, car il sera ressuscité au jour de la résurrection en train de faire la talbiyah. Et concernant la question du visage de la femme, le shir rahimahullah ta'ala a mentionné cela, comme l'ont mentionné autre que lui parmi les gens de science, en raison de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam du port du niqab pour la femme lorsqu'elle est en état de sacralisation. Toutefois, cette interdiction, elle ne vise pas l'interdiction de couvrir le visage, mais ce qui est visé, c'est l'interdiction du niqab, c'est-à-dire le tissu qui est entouré autour de la tête et noué afin de couvrir le visage. Mais il est légiféré pour la femme qui est en état de sacralisation de se couvrir le visage d'une autre manière lorsqu'elle est en présence d'un étranger. Comme cela est rapporté de notre mère Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui levait le tissu de son vêtement pour couvrir son visage lorsque des hommes approchaient. Donc, ce qui est juste à ce sujet est que la femme qui meurt en état de sacralisation, son visage est couvert avec le tissu de son linceul. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné la description de la prière sur le mort, qui est une prière qui est particulière, car elle a lieu entièrement debout, sans inclination ni prosternation. Mais elle comprend simplement des takbir, la récitation de la Fatiha, la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis des invocations et une salutation. Il dit donc, rahimahullah, « وَصِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ » est la description de la prière sur lui, c'est-à-dire sur le mort. « أَنْ يَقُومَ فَيُكَبِّرَ فَيَقْرَأَ الْفَاتِحَةَ » Il se lève et il prononce le takbir. Il dit Allahu Akbar, le takbir de sacralisation, comme pour l'ensemble des prières. Puis, il lit la Fatiha. Et il lit la Fatiha sans prononcer l'invocation d'ouverture comme on le fait dans les autres prières. Il prononce simplement l'isti'adha, la recherche de refuge auprès d'Allah contre le diable. Puis la basmala, bismillahirrahmanirrahim. Et il récite la Fatiha. Thumma yukabbir. Après cela, il prononce encore le takbir, un deuxième takbir, et il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en mentionnant par exemple As-salat al-Ibrahimiyya, la même que tu prononces lors du tashahhud dans la prière. Thumma yukabbir. Ensuite, il fait un troisième takbir. Wa yad'u lil-mayyit. Et il invoque pour le mort. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala nous a mentionné des passages de différents hadiths concernant l'invocation sur le mort et il a dit « Fayaqul » et il dit « Allahumma khfir li hayyina wa mayyitina wa sagirina wa kabirina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته فتوفاه على الإيمان. Ô Allah, pardonne à nos vivants et nos morts, nos présents et nos absents, nos petits et nos grands, nos hommes et nos femmes. Ô Allah, celui que tu laisses en vie parmi nous, fais-le vivre sur l'Islam, et celui que tu fais mourir parmi nous, fais-le mourir sur la foi. Puis il dit, rahimahullah, mentionnant notre invocation, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa 'afihi wa'fu 'anhu wa akrim nuzula wa wassi' mudkhala واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Ô Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, accorde-lui le salut, efface-lui ses fautes, accorde-lui une noble demeure et élargis-lui sa tombe, lave-le avec l'eau, la neige et la grêle et nettoie-le de ses péchés comme on nettoie le vêtement blanc de l'impureté. Puis il dit, Allahumma la tahrimna ajra وَلَا تَفْتِنَّ بَعْدَهُ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ. Ô Allah, ne nous prive pas de sa récompense et ne nous égare pas après sa mort et pardonne-nous ainsi qu'à lui. Ceci fait donc partie des invocations qui sont légiférées de prononcer lors de la prière mortuaire. Et il dit, rahimahullah, وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا قَالَ بَعْدَ الدُّعَاءِ الْعَامِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا لِوَالِدَيْهِ ذُخْرًا وَشَفِيعًا مُجَابًا اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. Ensuite il dit, et si c'est un enfant, il dit après cette invocation, Ô Allah, fais qu'il soit une récompense avancée et réservée pour ses parents, ainsi qu'un intercesseur exaucé. Ô Allah, fais de lui une cause pour alourdir leur balance et augmenter leur récompense. Fais-le rejoindre les croyants vertueux. Place-le sous la tutelle d'Ibrahim et protège-le par ta miséricorde du châtiment de l'enfer. Donc ceci est une invocation qui est prononcée lorsque celui sur qui on prie est un enfant qui est décédé. Et on voit dans cette invocation le mérite de patienter pour ceux qui perdent des enfants en bas âge. En effet, il est venu dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Toute femme qui perd trois de ses enfants, ils seront pour elle une protection contre le feu. » Une femme dit alors, « Même pour deux, au messager d'Allah. » Il répondit, « Même pour deux. » Il y a donc un grand mérite à patienter face à la perte d'un enfant avant la puberté. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous dit qu'après avoir prononcé ces invocations, on refait le takbir. Il dit, rahimahullah, thumma yukabbir wa yusallim. Ensuite, il prononce le takbir, il dit Allahu Akbar une quatrième fois, et il prononce la salutation. Et la majorité des gens de science ont dit que la salutation lors de la prière mortuaire, elle ne se fait qu'une seule fois à droite, comme cela est rapporté de nombre des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum. Et certains parmi les gens de science ont dit qu'il est permis de faire deux salutations, à droite et à gauche, comme pour les autres prières. Donc, si tu pries derrière un imam et qu'il fait deux salutations, il n'y a pas de gêne à le suivre en cela. Et également, parmi les choses à mentionner sur cette prière, il y a le fait qu'il est légiféré de lever les mains lors de chacun des takbirs, lors des quatre takbirs, le premier et les suivants. Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, « Les gens de science sont unanimes quant au fait que celui qui prie sur les morts lève ses mains lors du premier takbir. » Donc on voit que le premier takbir, il y a unanimité sur le fait que l'on lève les mains pour celui-ci. Puis il dit, « Et Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, levait ses mains pour chaque takbir. » Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, fait partie des compagnons connus pour sa ferveur dans le suivi de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Après cela, le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné deux hadiths pour nous montrer le mérite d'être présent lors de la prière mortuaire et du suivi du cortège funéraire. Il dit, rahimahullah, وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتِ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لا يشركون بالله شيئا illa shaffa'ahum Allah fih. Rawahu Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas un homme musulman qui meurt. Et ici, il a mentionné l'homme, mais cela ne veut pas dire que c'est spécifique aux hommes, mais cela est aussi valable pour les femmes. Il n'y a pas un homme musulman qui meurt, puis que prient sur lui 40 hommes, qui ne donnent aucun associé à Allah, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne leur permette d'intercéder en sa faveur. On voit donc le mérite que nombre de personnes assistent à la prière mortuaire. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné ici 40 hommes. Il est donc légiféré d'être nombreux à être présents lors de la prière mortuaire. Et notamment à faire en sorte que des gens vertueux viennent y assister. Parmi les gens du tawhid, et dites sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé ici « La yushrikuna billahi shay'a » qui ne donne aucun associé à Allah. Ceci est très important. Car, comme on l'a vu dans les cours sur le tawhid, l'intercession elle n'est accordée qu'aux monothéistes. Pour les monothéistes et en faveur des monothéistes. Ensuite il dit, rahimahullah, « وَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّ عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنْ فَلَهُ قِيرَاطَانٌ قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانُ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui assiste à la janaza jusqu'à ce qu'on prie sur elle, alors il a un qirat. Et celui qui est présent jusqu'à ce qu'on l'enterre, alors il a deux qirat. On lui demanda alors, et qu'est-ce que deux qirat? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ce sont comme deux montagnes immenses. Et ce hadith est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. On voit donc à travers cela le mérite immense et la grande récompense qu'il y a dans le fait d'être présent pour la prière mortuaire ainsi que pour l'enterrement. Et cela nous encourage à assister aux prières mortuaires qui, en plus de cela, font partie des droits du musulman sur son frère musulman. Comme cela est venu dans le hadith bien connu au sujet des droits du musulman, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné parmi ses droits le fait de suivre son convoi funéraire. Après cela, le shir rahimahullah ta'ala nous a mentionné un hadith au sujet des choses interdites concernant la tombe. Il a dit « وَنَهَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرِ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ رَوَاهُ مُسْلِمْ. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit que l'on plâtre la tombe, qu'on s'assoie dessus et qu'on construise dessus. Et ceci est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah ta'ala. Il est donc interdit de construire quoi que ce soit sur la tombe du musulman. Et ce car, la tombe, elle ne doit pas se distinguer. Car si elle se distingue, comme on l'a vu en détail dans les cours de Tawhid, cela peut être une cause pour que certaines personnes pensent que ce mort avait une particularité. Et cela peut mener à sa vénération, à l'exagération à son sujet, voire même à ce qu'il soit adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a coupé court à toutes les voies pouvant mener au polythéisme. Et entre dans cela le fait qu'il a interdit de construire au-dessus des tombes. Ensuite le shaykh rahimahullah ta'ala a dit وَكَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ وَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. Et lorsqu'il terminait l'enterrement du mort, il se tenait debout et disait « Implorez le pardon en faveur de votre frère et demandez à ce qu'il soit raffermi, car il est maintenant interrogé. » Ce hadith est rapporté par Abu Dawud, authentifié par Al-Hakim et également authentifié par Al-Albani, rahimahumullahu ta'ala. Il est donc légiféré, une fois que le mort est enterré, d'invoquer en sa faveur pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le raffermisse. Car il se fait interroger. En effet, comme il est venu dans de nombreux hadiths, une fois le mort enterré, deux anges viennent à lui, l'assoient dans sa tombe et lui posent trois questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Le croyant répondra, mon Seigneur est Allah, ma religion est l'islam, mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à l'hypocrite, il ne pourra pas répondre à ces questions, mais il dira simplement, ah ah, je ne sais pas, ah ah, je ne sais pas, ah ah, je ne sais pas. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous raffermir au moment de ce questionnement. Et pour cela, il est nécessaire pour nous de faire les causes de notre vivant. Il ne faut pas penser qu'il suffit simplement d'apprendre la réponse textuelle à ces questions et de dire « Mon Seigneur est Allah, je sais que mon Seigneur est Allah, je sais que ma religion est l'islam, je sais que mon prophète est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » Mais il ne suffit pas simplement de le savoir, mais tu dois concrétiser cela. Concrétiser le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est ton Seigneur, en lui vouant un culte exclusif, en ne lui donnant aucun associé dans l'adoration. Telle est la concrétisation du fait de dire « Allah est mon Seigneur ». Également ta religion est l'islam, mais tu dois mettre en pratique cette religion. Cette religion qui consiste à vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, te soumettre à ses ordres, délaisser ses interdits, et également te désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Tu dois mettre en pratique cette religion, entrer pleinement en islam. Et si tu dis que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est ton prophète, cela implique également certaines choses. Tu dois croire en tout ce dont il a informé, te soumettre à l'ensemble de ses ordres, délaisser tout ce qu'il a interdit et réprimandé, et n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière qu'il a légiféré. Si tu concrétises cela, alors tu peux espérer pouvoir répondre à ces questions dans ta tombe. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de pouvoir y répondre et de nous raffermir à ce moment. Mais si la personne est insouciante, n'apprend pas sa religion, ne la met que très peu en pratique, alors il est à craindre pour elle qu'elle ne puisse pas répondre. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc il est bien important de comprendre qu'il est nécessaire pour nous de faire les causes de notre vivant. Aujourd'hui, tu es encore vivant, mais demain, tu seras sous terre. Donc, tant que tu es vivant, tu as encore l'opportunité d'agir. Tu ne dois pas te concentrer sur le passé et sur le mauvais départ que tu as pu avoir. Mais tu te concentres sur le présent et sur l'avenir. Tu es encore vivant, tu as encore l'occasion de te repentir, tu as encore l'occasion de revenir à Allah, tu as encore l'occasion de multiplier les œuvres de bien, alors profites-en. Alhamdulillah, tant que tu es vivant, tu as encore l'opportunité de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne reporte pas à demain, car le report au lendemain, c'est une des ruses des diables afin de nous égarer du droit chemin et de nous faire oublier l'au-delà en nous rendant insouciants et en nous préoccupant par ce bas monde où Allah al-musta'an. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit « وَيُسْتَحَبُّ تَعْزِيَةُ الْمُصَابِ بِالْمَيِّتِ » Et il est recommandé d'adresser ses condoléances à ceux qui sont atteints par la mort de cette personne, à ses proches. Et ceci fait partie des choses qui renforcent les relations fraternelles entre les croyants. Et c'est une forme de consolation pour lui. Et il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, une formule à prononcer à cette occasion et qui est de dire « Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta wa kulla shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib » À Allah appartient ce qu'il a pris, et à Allah appartient ce qu'il donne, et toute chose a auprès de lui un terme fixé. Patiente donc et espère la récompense. Ensuite, le shir rahimahullah ta'ala nous dit وَبَكَى النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَى الْمَيِّتِ وَقَالَ إِنَّهَا رَحْمَةٌ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré sur le mort et il a dit ceci est une miséricorde. Comme cela est venu dans le hadith rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala. D'après Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils Ibrahim, il s'est alors mis à pleurer. Alors Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ta'ala anhu lui a dit « Toi aussi, ô messager d'Allah ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Ô ibn Auf, ceci est une miséricorde. » Puis il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Les yeux pleurent, le cœur s'attriste, mais nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. » Et nous sommes certes attristés de nous séparer de toi, Ibrahim. On voit donc à travers ce hadith que la personne n'est pas blâmée pour le fait de pleurer suite à la perte d'un proche. Ceci est une miséricorde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée dans les cœurs de ses serviteurs. Toutefois, ce qui est interdit, ce sont les lamentations. C'est pour cela que le shir rahimahullah ta'ala a dit ensuite « Ma'a annahu la'ana an-na'iha wal-mustami'a » malgré qu'il est maudit, celle qui se lamente et celle qui l'écoute. Et ceci est rapporté dans un hadith qui était jugé faible par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. S'il aurait été authentique, il nous aurait prouvé que les lamentations et le fait de les écouter font partie des grands péchés. Toutefois, on se suffit en cela du hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celle qui se lamente, si elle ne se repent pas avant de mourir, On la fera se lever au jour de la résurrection, portant un vêtement de goudron et un autre de gale. Ce hadith contient donc une menace sévère à l'encontre de celle qui se lamente et nous prouve que ceci fait partie des grands péchés. Et l'obligation lors de la perte d'un proche, c'est de patienter. Et la patience, elle se manifeste par le cœur, par la langue, mais aussi par le corps. Il est obligatoire de patienter dans son cœur en n'étant pas indigné de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Il se peut que cela soit dur à supporter, que la personne pleure, que la personne soit triste, mais elle doit accepter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété. Deuxièmement, on patiente par la langue en ne prononçant que ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Nous ne disons que ce qui plaît à notre Seigneur. Donc la personne ne doit pas crier, la personne ne doit pas prononcer des paroles qui déplaisent à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait de dire « Pourquoi lui ?» Il était encore jeune, il avait toute sa vie devant lui, ou autre parmi les paroles que peuvent prononcer certaines personnes lors de ces occasions. Et la troisième chose est de patienter avec ton corps, en ne faisant pas des choses interdites, des formes d'indignation comme se frapper le visage, déchirer ses vêtements, ou autre chose semblable qui s'oppose à la patience. Donc si la personne pleure, il n'y a pas de gêne en cela, toutefois, elle ne doit pas crier, elle ne doit pas se frapper, elle ne doit pas s'indigner. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala a dit « وقال زور القبور فإنها تذكر بالآخرة رواه مسلم » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Visitez les tombes, c'est-à-dire visitez les cimetières, car elles vous rappellent l'au-delà. » Et ce hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullah ta'ala. Et l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas penser ici que c'est un ordre d'obligation, mais c'est un ordre qui nous prouve la permission et la recommandation. Et ce, car il est venu après l'interdiction de visiter les tombes. En effet, au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait interdit de visiter les cimetières. Puis après cela, il l'a permis et il a mentionné la sagesse en cela. Et il a dit « car elle vous rappelle l'au-delà ». C'est donc pour cela que l'on visite les cimetières. On ne les visite pas pour aller rechercher la bénédiction auprès des tombes, ou alors pour aller faire des sacrifices ou autres adorations, ou encore pire, pour invoquer les morts. Mais on les visite pour se rappeler de l'au-delà. Et si on invoque Allah subhanahu wa ta'ala en faveur du mort. Et on n'invoque pas le mort. Car invoquer le mort est une forme de polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam. Ensuite, le shaykh rahimahullah ta'ala a dit « وَيَنْبَغِ لِمَنْ زَارَهَا أَنْ يَقُولُ السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية. Que le salut soit sur vous, ô habitants de ces demeures parmi les croyants et les musulmans. Nous allons certes vous rejoindre si Allah le veut. Nous demandons à Allah de nous accorder le salut ainsi qu'à vous. Qu'Allah fasse miséricorde à ceux qui ont avancé parmi nous, ainsi qu'à ceux qui tardent encore. Ô Allah, ne nous prive pas de leur récompense et ne nous égare pas après eux. Et pardonne-nous ainsi qu'à eux. Nous demandons à Allah de nous accorder le salut ainsi qu'à vous. Ceci est donc une invocation que le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionnée en réunissant les différentes narrations à ce sujet. Et toutes ces invocations que l'on a mentionnées, vous pouvez les retrouver dans les recueils d'invocations comme la citadelle du musulman ou encore les invocations authentiques et autres parmi les livres semblables qui regroupent les invocations légiférées en différentes occasions et en différents moments. Enfin, le Cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné une dernière question et il a dit « Wa ayyu qurbatin fa'alaha » وَجَعَلَ ثَوَابَهَ لِحَيِّنُ مَيِّتٍ مُسْلِمٍ نَفَعَهُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Et toute adoration qu'il fait, et dont il offre la récompense à un vivant ou à un mort musulman, ceci lui est profitable et Allah sait mieux. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala, il nous parle ici du fait d'accomplir un acte d'adoration pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et d'en offrir la récompense un vivant ou un mort parmi les musulmans. Par exemple, de faire une sadaqa avec l'intention que la récompense ne te revienne pas à toi, mais qu'elle revienne à tes parents, par exemple, ou autre chose semblable. Et le Cheikh rahimahullah ta'ala a généralisé ici et a dit que Cela a été légiféré pour toute adoration. Mais le plus juste est que cela est seulement légiféré pour certaines adorations. Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a dit à ce sujet, il leur parvient ceux dont la législation a prouvé que cela leur parvenait. D'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, lorsqu'un enfant d'Adam meurt, ses œuvres s'interrompent sauf trois. Une aumône continue, une science dont on profite, ou un enfant vertueux qui invoque en sa faveur. Et ce hadith est rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala, dans son recueil authentique. Et il y a d'autres hadiths qui nous prouvent que certaines œuvres peuvent être profitables pour lui, comme l'aumône, le pèlerinage, la umra, et ce que le mort a laissé comme diffusion de la science derrière lui. Quant au fait d'offrir la récompense d'une prière, ou de la lecture du Coran à des morts, ou alors le tawaf, ou alors du jeûne surérogatoire. Alors le Shir ibn Baz, rahimahullah ta'ala, nous dit « Je ne connais aucune origine à cela. » Et ce qui est légiféré est de le délaisser, d'après la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Celui qui fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci est rejetée. » Ce hadith est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah ta'ala. Donc ce qui est légiféré, quant aux récompenses des œuvres à offrir, à une personne décédée, cela concerne seulement ce qui est confirmé par les preuves, et notamment l'aumône et le pèlerinage ou la umra. Et ce qui est le plus profitable pour une personne décédée, c'est d'invoquer en sa faveur. D'invoquer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne, d'invoquer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève en degré, d'invoquer pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve de son châtiment, le fasse entrer au paradis, ainsi de suite. C'est cela qui lui est le plus profitable. On a mentionné dans des cours précédents la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que des parents seront élevés au paradis à un degré éminent. Ils seront alors étonnés de cela. Ils demanderont « Oh Allah, que nous a valu cela ?» Il leur sera alors dit « Ceci est en raison de l'imploration du pardon de votre enfant en votre faveur. » C'est-à-dire qu'après eux, ils ont laissé un enfant vertueux qui invoquait en leur faveur, qui invoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah les pardonne. Et ceci fut la cause de leur élévation en degré au paradis. Donc ceci est la chose la plus profitable que tu puisses faire pour un proche décédé, invoqué en sa faveur. Et si tu veux faire des aumônes, tu peux faire des aumônes en ayant l'intention que la récompense leur revienne, et également le pèlerinage ou la umra, comme cela est venu dans les textes. On a donc terminé ce chapitre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a ainsi terminé tous les chapitres qu'il était prévu que nous étudions lors de cette session de cours. Et si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, nous continuerons de lire les autres chapitres concernant les adorations, et notamment ce qui est lié à la zakat et au jeûne, et ce, si Allah subhanahu wa ta'ala nous le permet, avant le mois du Ramadan. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ces assises une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.